Et je chantais avec vous tout à l'heure, il guérit l'esprit froissé. Et mon sujet, c'est calme, méditation. Je n'avais jamais chanté ce titre en réfléchissant à ça. Il guérit l'esprit froissé, l'esprit contrarié, l'esprit vite et l'esprit mal nommé. Je pense que le Seigneur va nous donner sa paix. Amen. Alors, c'est toujours intéressant de voir la première mention à ce sujet-là. La première personne qui fut irritée, on le voit dans Genèse, chapitre 4, si vous voulez bien, versets 3 à 8. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 8. Genèse 4, verset 3. Là. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand on est irrité, on se fait du mal à soi-même quelque part là, on n'est pas bien, on est abattu. Très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Là, tu es ennuyé. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Paraît-il que dans le texte original, c'est l'idée d'une bête sauvage, d'un fort qui est prêt à bondir. Le péché est sous cette image-là. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Alors, l'irritation ici vient du refus de ce que Dieu a dit à Caïn. Dieu dit à Caïn, écoute, il faut que tu fasses attention. Et avant, Dieu n'avait pas donné un témoignage favorable à son offrande. Et cela l'a vraiment irrité. Ou plutôt que dans la présence de Dieu, je crois que ce n'était pas fini pour Caïn de se remettre en cause dans ce sentiment que Dieu lui donnait, ça aurait été plus profitable. Mais il s'est irrité. Irrité contre Dieu, irrité contre son frère. L'irritation a produit la violence parce qu'il s'est irrité. Ensuite, il s'est jeté sur son frère. L'irritation va nous amener plus loin. Il faut veiller à cette mauvaise disposition de cœur, de la chair. La chair fait du mal. Donc, peut-on dominer le péché? Quand Dieu lui dit, le péché est tapé à ta porte, domine-le. Est-ce qu'on aurait su faire mieux? Peut-on dominer le péché? Je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin de la grâce. Parce que nous ne serons pas... Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce. C'est écrit dans l'Épître. La chair, nous n'avons pas de force contre elle. Nous n'avons pas de ressources en nous-mêmes pour faire face à notre chair. La chair ne peut pas vaincre la chair. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous vaincre. Il n'y a que son esprit qui peut nous donner son fruit. Les œuvres de la chair, ça en fait partie, c'est la colère, l'irritation et bien d'autres choses mauvaises. Il n'y a que l'esprit qui peut produire son fruit en nous. N'essayons pas de changer. N'essayons pas d'avoir de meilleures dispositions, mais reconnaissons ce que nous sommes, ce que nous avons dans nos cœurs et demandons au Seigneur sa grâce. Parce que nous n'arriverons pas à nous changer nous-mêmes. Et quand la colère est là, c'est plus fort que nous. Caïn, nous dit l'apôtre Jean dans la première épître, était du malin. Vous vous rappelez, Jean dit ça. Caïn était du malin. Et c'est vrai que le diable est animé d'une grande colère. Et il était du malin. Il faut être plutôt rempli des sentiments qui étaient pour Christ. Amen. Certainement pas ceux qui sont dans le diable. Alors voilà pour la première mention. On va voir maintenant deux exemples. Dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 4 à 6, l'exemple de Anne, notamment. 1 Samuel, chapitre 1. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Amen. Ici, on voit que Anne, qui est fidèle, néanmoins Dieu la rend stérile. Ça nous étonne un peu. Hein. On pourrait se dire, ben, si on aime le Seigneur, si on est élevé fidèle, ça sera au contraire la bénédiction, être fécond. Et elle, elle est stérile. Des choses qu'on ne comprend pas toujours dans notre vie. On peut être fidèle au Seigneur et avoir des domaines dans notre vie où, où c'est comme stérile, c'est comme sec. Ça a duré de nombreuses années pour Anne. Et pendant toutes ces années, sa rivale essayait de l'irriter. De l'irriter contre lui. Hein, je crois que... Nous ne devons pas être mécontents de ce que Dieu permet dans nos vies. Dieu est souverain pour tout ce que nous vivons. Quand c'est écrit que l'Éternel avait rendu stérile Anne, ça ne veut pas dire que Dieu était contre Anne. Dieu avait un plan. Il fallait ces années de souffrance pour qu'au terme de ces années, elle ose donner son enfant. Si elle n'avait pas eu toutes ces années de souffrance, elle n'aurait jamais pu prier comme elle l'a fait à la fin où elle dit « Écoute, oh Dieu, donne-moi un enfant, j'en veux plus. Et si tu me le donnes, je te le donne. » Si elle n'avait pas été stérile pendant des années, elle n'aurait pas pu donner son enfant. Et nous n'aurions pas connu Samuel. Quel homme de Dieu! Quand Dieu ne nous exauce pas ou quand nous n'avons pas dans nos vies ce que nous lui réclamons, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas ou qu'il est contre nous. Parce que Dieu a un plan. Et il le réalisera. Ne nous irritons pas ou ne soyons pas mécontents de ce que Dieu permet dans nos vies. Amen. Voyons maintenant Jonas. Jonas, chapitre 4, s'il vous plaît. Notre exemple. Jonas, chapitre 4. Jonas chapitre 4, c'est la fin du livre, après le réveil de Ninive, le grand réveil. Qui n'aimerait pas vivre un réveil dans sa vie? Jonas chapitre 4, en tout cas, Jonas n'a pas trop aimé ce réveil. C'est dur, hein? Jonas 4, cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en priant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, rends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. C'est incroyable quand même, hein? Il vit un réveil et il préfère mourir. L'Éternel a répondu, fais-tu bien de t'irriter. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Jonas ne répond pas à Dieu. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver. Dieu est celui qui, dans Jonas, est maître de la création. Il utilise une grande baleine et un tout petit ver. Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit « La mort m'est préférable à la vie. » Deuxième fois. Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « La pitié de ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Amen. Voilà une irritation étonnante d'un homme de Dieu, un prophète. Étonnante, oui et non, nous allons vite à décrier Jonas, à mon avis à tort, c'était vraiment un ennemi. Il savait que les Ninivites étaient de grands pécheurs et seraient plus tard l'ennemi juré d'Israël et ferait beaucoup de mal à Israël. Mais quand même, un homme de Dieu qui s'irrite de ce que Dieu fait. Parfois, nous pouvons être irrités parce que Dieu ne fait pas les choses comme on l'a. Les pharisiens étaient irrités de ce que Jésus faisait parce que cela n'entrait pas dans leur conception religieuse. Jonas est d'abord mal disposé envers les Ninivites. C'est pour ça ensuite qu'il s'irrite contre ce que Dieu fait. Si nous n'avons pas forcément de bonnes dispositions de cœur, ce serait propice à cette irritation, même quand Dieu fait son œuvre. Jonas, au final, est un peu versatile. Il s'irrite, il se calme, il s'irrite à nouveau. Quand nous sommes dans cette fragilité sentimentale, nous pouvons être sujets à la versatilité. Et la première fois, je l'ai précisé, il ne répond pas à Dieu. Fais-tu bien de t'irriter. Et la pédagogie de Dieu est étonnante. D'abord, il le calme. Il calme son irritation par cet arbuste. Ça lui fait de l'ombre. Ça l'apaise. Et on dit, c'est bien, c'est gagné. Dieu l'a calmé. Mais curieusement, Dieu fait le contraire dès le lendemain matin. Il sèche le ricin et ça pousse Jonas à s'irriter encore plus. Et là, ça lui permet de répondre à Dieu. Que Dieu lui repose la question, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et là, cette pédagogie divine, assez étonnante, parce que tantôt c'est le chaud, tantôt c'est le froid, eh bien, pousse Jonas dans ses retranchements, et là, enfin, il sort ce qu'il y a dans son cœur. Il dit, oui, je veux bien le mériter. Oui, et jusqu'à la mort. Parfois, Dieu nous permet, nous révèle quelque part. Et quand on se découvre, quand on entend ce qu'on dit, alors Dieu peut nous parler. Dieu lui parle et Dieu lui dit, mais Jonas, tant d'histoires pour un petit ricin. Et moi, je ne vais rien faire pour cette immense ville peuplée de pécheurs. Pour lui, quelle belle leçon. Quelle belle leçon. Il me semble que l'amour de Dieu nous dépassera toujours. Et dépassera aussi. Alléluia. Nous avons de bonnes et de mauvaises dispositions. Mais Dieu, qui était plus en colère que Jonas sur cette ville méchante, a su faire grâce. Alléluia. Il a eu un instrument un peu difficile, un instrument qui s'irritait, un mauvais instrument quelque part. Mais il a fait avec son instrument une belle et glorieuse action, et il a béni non seulement les Ninivites, mais il a béni son serviteur en lui apprenant un peu plus de l'amour de Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, l'amour ne s'irrite point. Amen. Un dernier passage, le psaume 37, versets 1 à 13. Ce sera quelques conseils bénéfiques sur l'irritation. Psaume 37, versets 1 à 13. Psaume 37, verset 1er. Je vais lire les deux premiers versets, puis pas à pas, pour terminer. C'est un psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ne vont pas oublier que les gens sont perdus. L'homme de Dieu dit, ne t'irrite pas contre les méchants parce qu'ils sont bientôt fauchés, ils sont bientôt perdus. Je comprends que parfois on est irrité avec les inconvertis et les incroyants. Que dans le cadre du travail, parfois on est malmené. Et on peut être vraiment tenté d'avoir de mauvaises dispositions et de l'irritation envers les méchants. Et la Bible dit, ne t'irrite pas contre eux parce qu'en fait, c'est des malheureux, c'est des perdus. Bientôt. Ils vont être fauchés. Ne l'oublions pas. Annonce-leur l'évangile, même quand ils nous font du mal. La grâce de Dieu, elle est pour eux. Verset 3, il est dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Au lieu de l'irritation, la foi et la pratique du bien. Amen. Remplaçons. Il ne s'agit pas seulement de ne pas avoir de mauvaises choses en nous, mais de les remplacer par de meilleures choses. Au lieu de l'irritation, la foi et la pratique du bien. S'irriter contre les autres, ça ne va rien amener bon. Par contre, se confier en Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants. Laisse-les te faire du mal. Confie-toi en Dieu. Et quand on se confie en Dieu, on est rassuré. On retrouve de la tranquillité. Alors on peut faire le bien. Parce que le temps qu'on s'irrite contre les méchants, on n'est plus capable de faire le bien. On est piégé par ça. Donc, ne t'irrite pas. Mets ta confiance dans le Seigneur et pratique le bien. Verset 4, il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le plus important, c'est la communion avec Dieu. Faire de l'Éternel nos délices. Parce que si dans nos cœurs, il y a de l'irritation, ça va être difficile d'être en communion avec Dieu. Et c'est peut-être ça le pire pour nous. C'est que quand on est irrité, on n'est pas bien placé pour s'approcher de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. S'irriter contre le méchant, c'est se focaliser sur les hommes. Mais par contre, se tourner vers Dieu et faire de cette communion avec Dieu des délices, eh bien, c'est plutôt changer d'orientation. Et ce n'est pas facile dans la vie de se détourner des hommes, de se détourner des problèmes, des situations, pour se tourner vers le Seigneur et faire de l'Éternel nos délices. Amen. Versets 5 et 6, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. La foi est répétée ici. Le verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Deuxième fois, puisque le verset premier s'était dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit, même parfois certains peuvent réussir dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout, c'est-à-dire qui arrive à aller au bout de ses projets, de ses mauvais desseins. La deuxième fois, il est dit, ne t'irrite pas. Ici, le silence, c'est quoi? Garde le silence devant l'Éternel. Ça veut dire s'attendre. La foi est fort présente dans ce psaume, qui est un remède contre l'irritation. S'attendre à Dieu. Je sais que ce n'est pas trop notre culture, et c'est très bien, ce soir, nous avons vraiment prié les uns après les autres, ce fut un bon moment. Mais dans nos maisons, parfois, on peut arrêter de parler pour compter. Et de dire, Seigneur, je m'attends. Alléluia. Entendre en silence le secours de l'Éternel. Verset 8, troisième fois, il est dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne, troisième fois, ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Amen. Ce serait mal fait. Donc ici, au verset 8, laisser, abandonner, ça veut dire lâcher l'affaire. Et c'est pas facile d'abandonner. C'est pas facile de laisser. Parce que instinctivement, notre nature humaine, c'est d'amasser, c'est de récupérer, c'est de tenir. Les jeunes disent qu'il faut savoir lâcher l'affaire. Lâcher, abandonner, délaisser. Hein? Abandonner, laisser la colère, abandonner la fureur. Ça demande une décision. Et troisième fois, ne t'irrite pas. Versets 9 à 11, pour conclure. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant est dit. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Amen. Ce psaume 37, c'est aussi le psaume de la possession du pays. Et il se conclut sur cela, la possession du pays est réservée à ceux qui espèrent en Dieu et aux misérables. Merci Seigneur. Qui espèrent en Dieu et aux misérables. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où la méchanceté et l'injustice peuvent triompher. Nous sommes dans un monde où nous pouvons connaître la tentation de nous irriter. Mais en vérité, si nous sachons lâcher la colère, pratiquer l'amour, garder la foi, faire de l'Éternel nos délices, en réalité, même si nous sommes des misérables ici-bas et que les méchants triomphent, c'est nous qui posséderons le pays. Alléluia. Jésus a repris ce psaume quand il a dit « Heureux les débonnaires, heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Merci Seigneur. Les doux, les débonnaires, non pas les forts ou les méchants, les doux et les débonnaires. Alors nous avons chanté « Il guérit l'esprit froissé. » Seigneur, mets dans mon cœur plus de paix, plus de patience. Alléluia, afin que ton œuvre se fasse d'abord dans ma vie et autour de moi. Amen. Amen. Amen.